Alors, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 11, et on va lire versets 17 à 34. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Alors, Paul prend ici un ton sévère. Il reprend les Corinthiens, il a repris les Corinthiens, on voit dans le début du chapitre 11 sur cette question du voile, et il leur reproche de se réunir, non pour devenir meilleur, dit-il, mais pour devenir pire. Et notamment parce que dans les assemblées, les femmes voulaient s'affranchir de l'autorité masculine, c'est ce qu'on avait vu avec cette question du voile un petit peu dans les versets qui précèdent. Mais il poursuit donc dans le passage que l'on vient de lire, en soulignant ce qu'il a appris, verset 18, il dit « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Et on peut dire que c'était une vraie faiblesse de l'église de Corinthe. Le début de l'épître, si vous vous souvenez, parle des divisions qu'il pouvait y avoir les uns avec les autres. L'un disait « Oh, moi je suis d'un tel » et l'autre disait « Non, moi je suis d'un tel » et puis chacun cherchait qui était le meilleur et qui il fallait suivre. Et le mot grec qui a été traduit par « division », c'est « schisma ». Donc Paul déplore des schismes et des schismes, c'est des déchirures en fait. Il y avait des déchirures dans le corps. Il dit « Mais c'est une catastrophe ». De se déchirer de cette manière et de créer un esprit de parti et des dissensions qui ne sont pas bonnes pour le corps de Christ. Quoique, Paul ajoute que parfois c'est nécessaire. Pourquoi ? Il dit, parce que en fait ça sépare le bon grain de l'ivraie. Il dit, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et c'est vrai que les situations difficiles permettent toujours de voir qui est au Seigneur et qui marche avec le Seigneur. Et c'est une réalité qui n'est jamais souhaitable, mais qui arrive parfois. La division permet aussi la sanctification du corps de Christ. Ceux qui sont ancrés, enracinés en Jésus-Christ, restent fidèles. Ils avancent avec le Seigneur. Tandis que ceux qui ne sont pas des nôtres, se manifestent comme n'étant pas des nôtres, n'étant pas au Seigneur, et finissent par quitter le corps. Mais Paul reprend son sujet, versets 20 à 22, on va les lire. Donc, lorsque vous vous réunissez, Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Et il est bien fait ici une distinction entre le fait de manger le repas du Seigneur et puis le fait de manger et, voilà, pour, parce qu'on a faim, parce que c'est le repas, ou bien boire parce qu'on a soif. Et ce que Paul dénonce, c'est que finalement, ils se réunissaient comme pour honorer le Seigneur et prendre le repas du Seigneur. Mais en fait, non, ça devenait, un gueuleton. Ils mangeaient, voilà, ils s'empiffraient. Et Paul dit non, on arrête ça. J'ai déjà pensé au fait de prendre un repas fraternel et lors du repas fraternel, prendre le pain et le vin, en fait, partager le pain et le vin ensemble. Ça m'est déjà passé par l'esprit, parce que quand on pense au premier repas, bah, ils étaient à table, et ils ont pris un repas, c'était le repas de la Pâque, et puis en même temps, eh bien, le Seigneur a pris les éléments, comme vous savez, pour dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais il faut faire une vraie différence entre un repas et le fait de prendre le repas du Seigneur. Et je pense que c'est bien de marquer une vraie distinction et dire, voilà, là, on va prendre le repas du Seigneur. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On ne peut pas tomber. On est bien au clair. On sait ce qu'on est en train de faire. Et personne ne pourrait être ivre ou manger parce qu'il a faim, simplement. Et donc, je trouve beaucoup plus prudent. Paul dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Autrement dit, on n'est pas là pour ça. Allez manger, boire chez vous et venez prendre le repas du Seigneur comme il le faut. Et puis l'apôtre va rappeler ce qu'est le repas du Seigneur. Pourquoi les premiers chrétiens prennent le pain et prennent ce fruit de la vigne ensemble? Et le mieux, c'est de lire ce repas de la Pâque qu'ils ont pris ensemble. Et on va prendre Matthieu 26 et on va lire les versets 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc c'est ici le dernier repas, juste avant la crucifixion. Bientôt, le Seigneur va être emmené. Et c'est quelque chose de naturel, de normal, que de partager ce pain azim, pour cette dernière Pâque. Mais Jésus va faire de ce moment un moment très particulier, à part. Ils sont tous en train de manger, ils sont en train de discuter, de parler, et Jésus, au milieu du repas, devant tous ses disciples, élève peut-être les mains au ciel, rend grâce pour le pain qui est devant lui, il le brise, il le rompt, et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Autrement dit, ce qui leur servait de nourriture et de pain, qui était commun pour l'époque, va devenir maintenant une image de son corps qui est brisé. Une image de son corps brisé. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi, ce qui signifie, bien maintenant, vous allez le faire de cette manière, d'une manière régulière, et vous allez penser à mon corps qui est brisé pour vous. Et puis, il continue le repas. Luc, dans l'autre évangile, précise que c'est vers la fin du souper. Donc, une fois qu'ils avaient continué le repas normalement, à la fin, Jésus prit une coupe, il la lève et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Autrement dit, le breuvage, là, ce fruit de la vigne, tout simple, va devenir maintenant une image de mon sang quand vous prendrez ce repas ensemble. Et il dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Et on peut dire que la vie chrétienne, elle est profondément spirituelle. Mais du fait qu'elle est spirituelle, elle est aussi abstraite d'une certaine manière. Comme par exemple la prière. Vous êtes en train de prier, il y a un dialogue avec Dieu. Vous êtes tout seul dans votre chambre, il n'y a rien. Et vous parlez à un Dieu que vous ne voyez pas. C'est abstrait, c'est abstrait. On adore un Dieu en esprit et en vérité. Dieu en esprit, en vérité. On combat un ennemi qu'on ne voit pas. Notre conversion, c'est une conversion du cœur qu'on ne voit pas de l'extérieur. Notre marche, c'est aussi une marche par la foi. Continuellement, on est invité à marcher par la foi. Tout ça, c'est abstrait en fait. Mais on peut dire qu'ici, Dieu va donner un jalon, quelque chose de concret, quelque chose de physique qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut absorber. Un repère en fait, hein, un repère pour nous. Il y a deux repères. Il y a deux choses vraiment concrètes. C'est le baptême, où là, eh bien, concrètement, on est en train de manifester quelque chose qui s'est passé de manière invisible dans notre cœur. J'ai accepté Jésus-Christ. Il a bouleversé ma vie. Eh bien, je vais vous le montrer maintenant d'une manière concrète. Je descends dans les eaux du baptême. Image de ma mort avec lui. Image de ma résurrection. Je me relève. Voilà, c'est concret. Deuxième chose, deuxième repère physique concret, c'est ce dernier repas, la scène. Où là, deux éléments physiques, le pain, le vin, qui rappellent des vérités spirituelles profondes, image de son corps brisé, image de son sang répandu. Prenez Jean 6, versets 53 à 55. Verset 53, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. En entendant cela, si quelqu'un veut être sauvé, eh bien il va vouloir à tout prix manger de ce pain et boire normalement de ce vin, si quelqu'un veut être vraiment sauvé. Et on comprend que ce pain et ce vin, en lisant ce texte, nous rapprochent vraiment de Jésus-Christ, et même que ce serait la garantie d'avoir la vie éternelle, puisqu'il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » C'est pour ça qu'il y a des millions de pèlerins qui se pressent pour aller prendre une hostie, hein, qu'on a appelée l'Eucharistie ou l'action de grâce, donc dans l'Église catholique. Parce que la vie éternelle, elle passe par l'absorption de ce pain, corps de Christ, et de ce vin. Ah non, le vin a été retranché, pardon. Certains même voient pas la différence entre le fait d'aller prendre une hostie à l'Église catholique, ou bien l'effet d'aller prendre le pain et le vin ailleurs dans une autre assemblée, ou bien pour eux c'est pareil au même. Mais c'est mal comprendre ce que Jésus est en train de dire. Et c'est vrai que c'est ambigu, hein, un peu ambigu si on lit que ce passage. Il ne faut pas lire que ce passage, il faut lire toute la Bible, et notamment tout le chapitre. Et un petit peu avant, regardez Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ici, remarquez que Jésus ne dit pas « celui qui me mange n'aura jamais faim » ou « celui qui me boit n'aura jamais soif », mais il dit « celui qui vient à moi, celui qui croit en moi ». C'est là où il va être rassasié, c'est là où il aura plus soif. Et donc l'important, c'est venir à lui et c'est croire en lui. C'est ça qui est primordial. C'est ça qui va sauver, c'est ça qui va nourrir en fait, c'est ça qui procure la vie éternelle. Et ce n'est pas de manger un morceau de pain ou de boire un peu de fruits de la vigne. C'est pour ça que Jésus dit que sa chair, c'est vraiment une nourriture. Et son sang, c'est vraiment un breuvage. C'est dans le sens de venir à lui, de croire en lui, de l'écouter, de le regarder, de se nourrir de sa vie. C'est ça qui nourrit l'âme. D'abord, ça nourrit l'âme du pécheur qui est encore loin de Dieu, mais qui observe, qui contemple la vie de Jésus-Christ et qui comprend sa mort, qui comprend ce qu'il a fait pour lui. Par le fait de le comprendre, il absorbe la vie de Jésus-Christ, il obtient le pardon de ses péchés. Ça le nourrit. Et ensuite, ça nourrit celui qui a fait ce pas, après, qui veut marcher avec Jésus-Christ, finalement, la vie de Jésus-Christ est notre nourriture. C'est pour ça que Paul dit, je n'ai voulu savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que même pour nous chrétiens, c'est notre pain. On s'en nourrit continuellement et ces vérités, voilà, nous rassasient l'âme. Il est un pain bienfaisant pour l'âme, il est un breuvage désaltérant pour le cœur. Et Jésus a pris cette image du pain pour le représenter parce que le pain était l'aliment de base du repas de la Pâque. Et depuis des millénaires, le pain, c'est quelque chose qui rassasie l'âme. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui, sans pain, hein, on ne se rassasie plus. Mais en tout cas, pendant 6000 ans, on s'est rassasié de pain. Et quand il n'y avait pas le pain, il y avait toujours un aliment autre qui faisait office de pain, qui venait rassasier le corps. Et le Seigneur, par sa vie, ne cessera jamais de nous rassasier. Quand on l'observe, quand on voit ce qu'il a fait pour nous, quand on voit son sacrifice, quand on voit la manifestation de son amour à l'égard des hommes dans les évangiles, quand on voit la manifestation de son humilité, qui se met à genoux, qui lave les pieds des disciples, quand on voit la manifestation de sa miséricorde, quand il dit « va et ne pêche plus ». Quand on voit tout ça, il est une nourriture, il est un breuvage. Et voilà, c'est son exemple qui nourrit nos âmes, qui nous fait du bien. La vie de Christ nous rassasie. Mais pour avoir un pain bien nourrissant, il faut auparavant avoir du blé. Et avant d'être devenu le pain, eh bien, le Seigneur a d'abord été un épi de blé, un grain de blé, pardon. Jean 12, 24, hein, il est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus ne serait jamais devenu notre pain s'il n'avait pas accepté d'être le grain de blé qui meurt d'abord. Il a accepté d'être broyé, d'être déchiré, d'être éclaté pour pouvoir donner beaucoup de fruits. Parce qu'il faut, à chaque fois que le grain eh bien, se déchire, hein, se décharne, pour qu'il puisse eh bien, finalement porter du fruit. Et la faiblesse d'une vie chrétienne, elle trouve sûrement sa racine dans le fait d'une vie qui n'est pas livrée, qui n'est pas offerte. Il n'y a pas le don de sa personne, donc on ne meurt pas. Et le résultat, eh bien, Jésus dit, si on ne meurt pas, eh bien, on reste seul. Et donc, il faut impérativement mourir pour que le Seigneur et la vie du Seigneur puissent triompher en nous. Ensuite, se nourrir de Jésus, notre pain, c'est aussi comprendre comment il est devenu du pain. Il est devenu du pain parce qu'il a accepté la mort. Il s'est laissé faire entre les mains de son Père. Il a accepté la volonté du Père, il a renoncé à sa volonté. Il avait une volonté, mais il l'a mise de côté. Et il a voulu faire la volonté du Père. Et c'était dur. Il y a eu des moments de lutte, il y a eu des combats intérieurs, mais ça a été aussi un grand moment de victoire, un triomphe, et un moment finalement de joie. Une fois mort, Christ a engendré la vie. Et il est devenu le pain céleste, il est devenu la manne qui descend du ciel et qui vient rassasier, qui donne la vie éternelle, et puis cette manne qui vivifie le chrétien aussi, jour après jour. Et il ne faut pas que nous, on ait peur d'être broyés aussi, comme le Seigneur a été broyé. Parce qu'il faut devenir cette farine, pour devenir un pain nourrissant, il faut devenir une farine. Hein. Et donc il faut être broyé, un peu comme si on était dans la meule de Dieu. Il est dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est difficile, ce verset est difficile. Apprendre l'obéissance par la souffrance. Mais le Seigneur a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Et il ne faut pas craindre d'être aussi dans la meule du Seigneur et d'y passer. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on devient un pain bienfaisant, une nourriture pour les autres. Il n'y a que quand on devient un grain de blé qui meurt. Et c'est vrai que c'est évident des fois quand on regarde des vies chrétiennes et on se dit « mais oh, il me fait du bien, c'est un pain nourrissant ». Mais c'est parce qu'il est passé par la mort avant. une personne qui ne passe pas par la mort ne devient jamais un pain nourrissant. C'est parce qu'on passe par la mort, alors, eh bien là, on devient un pain nourrissant. Et quand on pense à ces meules hein, qui écrasent, qui pétrissent avec des centaines de kilos, je disais, ça peut faire 1600 kilos, une pierre énorme. Les meules de l'époque, hein, c'était des grosses pierres taillées circulairement. Et donc, il y en avait une au-dessous qui était immobile et une au-dessus de même dimension, mais qui tournait celle-là. Imaginez ce grain qui était là, entraîné par la rotation de la pierre supérieure, il finissait par être complètement broyé, devenir une fine farine. Et parfois, c'est un peu, on a l'impression qu'on est en train de vivre ça, quoi, qu'on est broyé, avoir le sentiment d'être ce grain de blé. On subit une pression, mais le Seigneur, il veut ces choses aussi dans nos vies pour qu'on devienne ce pain qui finit par nourrir et qui fait que ben, on devient une farine et un pain qui fait du bien pour les autres. En prenant le pain et ce pain de la scène, il faut qu'on pense à Jésus qui a été brisé sur la croix. Il est mort et en fait par la scène aussi, il nous dit « mais suis-moi dans la mort, accepte de vivre aussi la mort pour devenir ce grain de blé qui va faire du bien. » Et j'aimerais faire une coupure ici dans mon message. Et on va prendre le pain, image de Christ, pain brisé, image de son corps brisé. On vient de voir, quand on a lu 1 Corinthiens, que c'est un moment qui est vraiment solennel, qui est mis à part. Donc juste pour relire, 1 Corinthiens 11, versets 27 et 28. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 28, il est dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Et ici, ça signifie qu'il faut s'examiner soi-même. D'abord, comme Jésus a pris ce repas avec ses disciples, si nous ne sommes pas un disciple du Seigneur, il ne faut pas prendre le repas. Si nous ne sommes pas encore disciples, ne prenons pas le repas. Il faut vraiment être un disciple pour communier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être sauvé, être sûr d'avoir la vie éternelle, sûr qu'on a été lavé par le sang de l'agneau, que maintenant on va au ciel, non par nos propres mérites, mais parce que, eh bien, on a reçu le salut en Jésus-Christ. Il nous a sauvés. Et puis, être un disciple, c'est être aussi quelqu'un qui veut obéir au Seigneur. Et le premier signe de l'obéissance, ben, c'est le baptême. Hein? Si on veut obéir au Seigneur, normalement, logiquement, si on a cru, on dit, ben, je veux être baptisé. Et donc, si on n'a pas été baptisé librement, de manière consenti, alors eh bien ne prenons pas encore le pain et le vin, sauvé, baptisé. Et puis il ne suffit pas d'être un disciple, il faut être un disciple qui marche aussi, c'est-à-dire un disciple qui reste dans la lumière, qui reste sous le sang, qui reste au pied de la croix, comme on l'a beaucoup chanté, et donc qui demande pardon pour ses péchés. Quelqu'un qui reste dans le péché, qui ne confesse pas son péché, alors eh bien il faut qu'il s'abstienne de prendre la scène. Et j'aimerais reprendre le texte de Matthieu, Matthieu 26 et verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Donc Jésus a pris ce vin qui se trouvait sur la table et il en a fait une image de son sang. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau que de prendre le sang pour faire une alliance. Déjà, de temps en temps, on voit dans les films, ou je ne sais pas si vous l'avez fait quand vous étiez jeune, mais certains voilà, se coupent un peu la main, mélangent le sang avec l'ami ou le copain, et puis disent, voilà, on a fait une alliance ensemble. En Exode 24, on lit que Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Donc il a dû asperger hein, quelques gouttes comme ça de sang sur le peuple qui était devant. Donc le sang était déjà une image hein, de l'alliance que Dieu contractait avec son peuple. On chante encore un cantique qui dit « Scelle à jamais l'alliance que je traite maintenant, et dans ton amour immense, viens la signer de ton sang. » Et c'est ce que Jésus a fait avec nous et pour nous. C'est son sang qui ratifie en fait l'alliance qu'il a faite avec nous. On n'a pas besoin, nous, de répandre notre sang. Le sien suffit. L'alliance est scellée en son seul sang. Ça veut dire que c'est lui qui s'engage vis-à-vis de nous. C'est merveilleux, ça. C'est lui qui fait alliance avec nous. Quand on se repent, quand on croit sincèrement, alors, eh bien, voilà, il nous saisit. Et cette alliance, par le sang de Christ, c'est la dernière alliance dans la parole de Dieu. Il y a six autres alliances dans les Écritures, mais cette dernière alliance, c'est la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure? D'abord parce qu'elle est inconditionnelle. Dans l'alliance, par exemple, du Sinaï, on voit qu'il était dit « si tu obéis, si tu fais ceci, cela, alors eh bien, tu recevras la bénédiction, etc. » Mais cette nouvelle alliance dans son sang ne dépend pas de notre sainteté ou ne dépend pas de notre persévérance ou de notre capacité à nous garder nous-mêmes. Elle ne repose pas sur ce que l'on a fait ou ce que l'on ne fait pas, mais elle dépend de Dieu seul. À partir du moment où on vient, on s'offre à lui, ça y est, c'est Dieu qui entre dans cette alliance, qui la signe de son sang pour nous. Et ensuite, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui fait en sorte que nous obéissions et nous pratiquions ses commandements. C'est son œuvre, son travail. Ça ne dépend plus de moi, si ce n'est que moi, je reste dans la foi. J'obéis à mon Seigneur en lui offrant ma vie. Et lui, il fait les choses. C'est lui qui pratique les œuvres. Cette nouvelle alliance est encore meilleure parce que l'obéissance est produite par un cœur volontaire, reconnaissant, bien disposé. Dieu nous attire finalement par des cordages d'amour pour nous dire « mais l'obéissance est mieux que la désobéissance. Tu seras plus heureux dans l'obéissance. » Et il nous attire comme ça. Ce n'est pas pareil que de marcher avec la crainte de la mort, la crainte de perdre son salut par exemple. La crainte du commandement, du couperet qui tombe comme la loi. Non, la crainte bannit. Pardon, l'amour bannit la crainte. Et le Seigneur veut qu'on marche par l'amour. Et c'est une alliance bien merveilleuse, bien meilleure que de marcher parce qu'on l'aime et parce qu'il nous montre que c'est ça le bonheur, l'aimer et marcher avec lui. Ensuite, cette alliance, elle est meilleure parce qu'elle assure un pardon complet de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a plus rien. C'est lavé complètement par le sang de notre Seigneur. Il est dit, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ça veut dire la purification, elle est totale, elle est parfaite quand on est à la croix, au pied de la croix. Et pour preuve, même notre conscience en est purifiée. Quand on vient à lui avec un cœur repentant, eh bien on repart avec une conscience pure et sans reproche. Et ça, c'est merveilleux. On a lu un petit peu là dans Hébreu, avec ces sacrifices qui étaient renouvelés chaque année. Et eux, eh bien, devaient... La conscience, elle n'était pas... C'était parce que le sacrifice de Christ n'avait pas encore été accompli. Alors certes, Dieu couvrait... Mais la conscience était là. Alors, eh bien, il revenait sans cesse et reprenait les bêtes pour faire les sacrifices. Les sacrifices étaient renouvelés. Nous, à la moindre chute, on dit « Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. » Lavé dans le sang, la conscience purifiée. On se relève et on marche. Je trouve ça merveilleux. Ça m'arrive des fois, vous savez, j'arrive ici au culte, je suis en 1000 morceaux. Vous ne savez pas, mais je suis en 1000 morceaux. Je me dis, mais Seigneur, comment assurer un culte avec ce que je viens de vivre là? Mais voilà, Seigneur, fais grâce. Et hop, il nous remet debout et tout est par grâce. C'est la grâce de Dieu, c'est le bonheur que le Seigneur nous fait, nous donne. Et puis, cette alliance est meilleure pour terminer parce qu'elle nous garantit d'avoir la vie éternelle. C'est une alliance qui accorde une certitude quant à la mort. Il n'y a plus de peut-être. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Maintenant, quand Christ fait alliance avec nous, il n'y a plus d'angoisse, plus de crainte, plus de peur par rapport à la mort. On sait qu'il nous a sauvés et son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En prenant la coupe, image de son sang, on peut être vraiment reconnaissant pour cette alliance qu'il a fait avec nous. On ne la mérite pas, mais il a signé de son sang. Il a lié notre nom à son nom, comme on l'a chanté dans un cantique. Alors, eh bien, on comprend que Jésus ait dit « Mon sang est réellement un breuvage ». Quand on voit toute la valeur de ce précieux sang, on comprend ce que ça signifie. Son sang est comme un breuvage qui désaltère l'âme qui est fatiguée de son péché, celle qui est accablée par la culpabilité, ou bien encore celle qui est angoissée par la mort. Son sang est un breuvage. Il faut simplement venir à lui, croire en son sang répandu, et ça devient un breuvage qui désaltère notre âme. Alors on va prendre la coupe ensemble maintenant. Jésus n'a pas partagé la coupe encore avec la foule, mais il a partagé avec ses disciples, les fidèles. Il a préféré le faire en aparté parce que c'était quelque chose de sérieux et qu'il ne voulait pas qu'on prenne ça à la légère. Vous avez lu avec moi dans 1 Corinthiens que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et un grand nombre étaient morts. Peut-on imaginer ça? Morts parce qu'ils avaient méprisé le corps de Christ et le sang de Christ en méprisant le repas du Seigneur. Le meilleur, c'est de s'examiner soi-même et de se juger soi-même devant le Seigneur par la prière et dire « Seigneur, pardon, pardon !» Et ainsi, après, de prendre le pain et prendre la coupe. Celui qui ne le fait pas, il peut être châtié par le Seigneur et le Seigneur le fera afin de ne pas être condamné avec le monde. Si Jésus a pris le pain et le vin avec ses disciples seuls, c'est qu'ils savaient aussi qu'ils allaient devenir, eux, un grain de blé qui allait mourir. C'est ce qui s'est passé pour ses apôtres, parce que le Seigneur voulait qu'ils portent après beaucoup de fruits. C'est pour ça que la scène se prend avec les disciples du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 11, 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et donc, quand on prend le pain, quand on prend la coupe, c'est comme si on se tourne vers le passé, vers ce sacrifice qui nous sauve parfaitement, et on le proclame, on le déclare. Il est mort et il m'a sauvé et je suis reconnaissant. Et je vous le montre, c'est une réalité dans ma vie. C'est une manière de dire aussi qu'il n'y a pas besoin d'un autre sacrifice, que ce soit un sacrifice d'animal, ou que ce soit le sacrifice d'une vie offerte, ou que ce soit le sacrifice de nos œuvres, le sacrifice de notre générosité, le sacrifice de tout ce que l'homme finalement pourrait donner. Il n'y a pas besoin d'autre sacrifice. Il est le sacrifice parfait, unique et qui nous sauve. Manger le pain, boire la coupe, c'est donc important parce que c'est quelque chose de concret, de physique, qui manifeste des vérités qui sont spirituelles et invisibles aux yeux. Mais le plus important, comme aussi Vincent nous l'a rappelé dans ce cantique, c'est de venir à lui et c'est de croire en lui. C'est ça qui fait qu'on devient un vrai disciple. C'est ça qui fait qu'on devient un enfant de Dieu, sauvé, pardonné, lavé. Si vous n'êtes pas venu encore, si vous n'avez pas cru encore, alors je vous invite à le faire vraiment, à vous donner à lui de tout votre cœur. Et puis, qu'on puisse nous penser, si nous sommes enfants de Dieu, que quand on prend le pain et le vin, ça nous replace sans cesse devant le fait que Jésus a été une vie offerte, qui a été broyée, brisée. Et par son exemple, il nous montre qu'il attend ça de nous, que nous aussi on accepte de mourir et d'être crucifiés avec lui.